Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, Dieu aidant, je vais essayer aujourd'hui de terminer le traité sur la charité avec les dernières questions. Nous sommes à la question 43 de la Secunda Secundae, article 7, question sur le scandale. Il nous reste donc à terminer cette question sur le scandale. Ensuite, nous aurons question 44 sur les préceptes de la charité, question 45 sur le don de sagesse, et enfin question 46, très courte, sur la folie opposée à la sagesse. Nous aurons à ce moment-là terminé donc les vertus théologales, foi, espérance et charité. Nous pourrons commencer et traiter un peu plus facile, plus court aussi, sur les vertus cardinales, la force, la justice, la prudence et la tempérance. Sur le polycopier, donc nous en sommes à la page 98, alors je m'excuse, le polycopier manque un peu de concision dans ces parties-là. Je rappelle que polycopier n'est fait que pour être une espèce de fil conducteur, si vous voulez, que je suis pour le cours lui-même, c'est comme une colonne vertébrale du cours. J'ai fait ce polycopier à partir directement de la somme, et j'avais souligné sur la somme sur mon ordinateur les parties qui m'intéressaient beaucoup, et j'ai repris toutes ces parties, je les ai mises un peu bout à bout. C'est pour ça qu'il y a parfois un manque de liaison entre les différentes parties, je m'en excuse. Mais encore une fois, le polycopier n'est pas fait pour être étudié seul, sans l'aide des conférences. Alors, nous sommes en somme, donc, je répète, à la question numéro 43 du traité sur la charité. Du scandale, péché contre la charité, s'il en est. Je rappelle la définition que donne Saint Thomas d'Aquin du scandale, une parole ou une action moins droite qui donne une occasion de ruine spirituelle. Et donc c'est donc un péché par lequel je pousse quelqu'un, directement ou indirectement, à commettre un péché par le mauvais exemple que je lui donne. Soit par mes actions, soit par mon manque d'action, par exemple par mon silence. Un silence peut être scandale. Un père de famille qui ne dit rien alors que ses enfants se comportent de façon scandaleuse, eh bien un père de famille pêche gravement par son silence. Alors nous en sommes à l'article 7. Faut-il renoncer au bien spirituel à cause du scandale? Donc vous avez donc un petit résumé de ces points-là, la page 98 du polycopier. Si l'on tire scandale de la vérité, il est préférable de laisser naître le scandale que d'abandonner la vertu. Donc cette phrase est importante, je la répète. Si l'on tire scandale de la vérité, il est préférable de laisser naître le scandale que d'abandonner la vérité. Il est évident que si nous prêchons la foi catholique, et parce que nous prêchons la foi catholique, nous scandalisons certaines personnes, eh bien ce scandale est une bonne chose. Alors voyons un petit peu ce que dit saint Thomas dans cet article 7. La charité voulant que l'on préfère son salut à celui du prochain, ce qui est de stricte obligation ne doit pas être omis à cause du scandale. Donc il n'est jamais permis de pécher, même véniellement. Donc on a l'obligation d'utiliser son intelligence et sa volonté pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Il est évident que dans le monde moderne, si je prêche notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment ça ne passera pas. Eh bien, c'est pas parce que ça ne passe pas qu'il faut se taire. Les martyrs sont tous des gens qui ont été témoins. Mon martyr, ça veut dire témoin. en grec. Donc c'est le témoin de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres ont tous été témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont prêché notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Mais ils ont tous été martyrisés à cause de cela, sauf Saint Jean. Eh bien, pourquoi ont-ils été martyrisés? Ils ont été martyrisés parce qu'ils scandalisaient le monde. Et ce scandale est une bonne chose. Donc il faut bien comprendre le mot scandale tel qu'il est utilisé par l'Église catholique et par saint Thomas d'Aquin. Donc il y a un bon scandale et un mauvais scandale. Jésus-Christ, dans l'Évangile, nous apprend à mépriser le scandale des pharisiens. Il n'en est pas de même du scandale des faibles. Ainsi appelé parce qu'il vient de la faiblesse ou de l'ignorance, on doit, jusqu'à ce qu'on ait levé la cause en donnant raison de sa conduite, faire un secret ou différer certaines actions bonnes en elles-mêmes, quand il n'y a aucun danger, agir de la sorte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans certains cas, si je me rends compte que mon action scandalise les faibles, les gens qui ne sont pas très bien formés, eh bien, il vaut mieux dans certains cas, tant que la foi n'est pas en jeu, bien sûr, il vaut mieux dans certains cas peut-être attendre. Avant de faire certaines choses, même si j'ai le droit de faire ces choses actuellement, il vaut mieux attendre pour préparer les gens à recevoir ces choses que je vais leur donner. Et si, après les explications nécessaires, ce scandale persévère, ce qu'on appelle le scandale des faibles, il paraît être le fruit de la malice et l'on ne doit plus, à cause de lui, négliger les fruits spirituels. Et donc, je vous donne un exemple. Dans les prédications des exercices de Saint-Ignace, il y a plusieurs étapes, qu'on appelle les 4 semaines, les 4 parties des exercices. Au début, on a une voie purgative, donc on explique certaines choses sur le salut, les conséquences, le péché, les conséquences du péché. Eh bien, en première partie des exercices, surtout lorsqu'on parle à des gens qui ne sont pas encore catholiques, à des convertis, ou des gens qui sont sur le point de se convertir, eh bien, il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder en première partie de l'arrêt des exercices parce qu'ils sont beaucoup trop exigeants, il faut attendre. Le vieux Père Bariel, qui m'a appris à prêcher ces exercices au séminaire, me disait: ne parlez jamais, par exemple, du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ dans la première partie des exercices, parce que vous scandaliseriez tout le monde, tous les gens qui ne sont pas préparés encore à entendre ça. Il faut attendre les confessions. Une fois que les confessions générales sont faites, à ce moment-là, on peut commencer à parler de ces sujets, mais il faut que les gens soient préparés à recevoir la matière de ce sujet. Donc, quand saint Thomas pose la question, faut-il renoncer au bien spirituel à cause du scandale? Donc, il faut répondre en faisant ces distinctions. Dans certains cas, pour éviter le scandale des faibles, il faut mieux se taire, au moins pour un certain temps. Mais si je dois parler et qu'un silence de ma part serait interprété comme une acceptation de l'erreur, alors à ce moment-là, je dois parler, même si je scandalise les gens. Article 8. Faut-il renoncer à des biens temporels à cause du scandale? Alors, saint Thomas va donner l'exemple de saint Thomas de Canterbury, qui réclama les biens ecclésiastiques malgré les scandales du roi. Saint Thomas a une très belle phrase. Il dit: les biens qui nous ont été confiés par l'Église, par l'État ou même par un simple particulier ne doivent pas être abandonnés à cause du scandale. Leur conservation constitue un devoir rigoureux en justice. Donc en justice, je suis obligé, dans certains cas, peut-être de scandaliser certaines personnes pour garder fidèlement la loi de la justice. Lorsque le scandale provient au contraire de l'ignorance ou de la faiblesse, ce que nous avons appelé le scandale des faibles, on doit abandonner ces sortes de biens en donnant quelques explications qui fassent voir qu'en les exigeant, on use de son droit. Donc, il y a des gens qui peuvent être scandalisés par certaines choses parce qu'ils ne sont pas au courant de certaines règles, par exemple, concernant, je ne sais pas moi, la liturgie, concernant d'autres choses. Eh bien, il faut donc expliquer ces choses pour lever le scandale. Bon, maintenant, dans d'autres cas, encore une fois, si parce que je prêche la vérité, je scandalise les gens, eh bien, tant pis. Il faut que les gens, la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ soit dite. Je vous donne un exemple encore tout simple. Quand on prêche aujourd'hui l'union nécessaire entre l'Église et l'État, telle qu'elle a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'Église elle-même, c'est tout l'enseignement surtout du pape Pie IX dans le Quanta Courant, dans le Syllabus. Quand on parle de l'union de l'Église et de l'État nécessaire, on scandalise certaines personnes qui ne sont pas du tout prêtes à accepter ce genre de doctrine. Lorsque je dis, par exemple, dans un sermon, hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut, et si je, dans la chapelle qui assiste à la messe, qui assiste à mon sermon, donc, il y a parfois des gens qui ne sont pas catholiques, ou des catholiques libéraux, ou des catholiques non pratiquants, eh bien, ils vont être scandalisés par l'affirmation. Et parfois, ils viennent me voir à la fin de la messe en disant: comment, vous avez dit hors de l'Église catholique, pas de salut, pour qui vous prenez-vous? Je me prends pour un prêtre catholique, monsieur, c'est l'enseignement de l'Église, je suis désolé. Bon, c'est sûr qu'il faut expliquer les choses, il faut hein, la charité d'expliquer les choses, mais si on scandalise, on scandalise les gens parce qu'on affirme la foi catholique, eh bien tant pis, on scandalise les gens. Donc c'est assez à distinguer, dit saint Thomas, du scandale des faibles, les gens qui ne sont pas encore assez mûrs pour apprendre certaines choses, donc on attend, bah, avec patience, faut qu'ils soient capables d'accepter la chose. Un enfant, on donne du lait, on ne donne pas la nourriture solide. Le précepte de notre Seigneur, si quelqu'un veut plaider contre vous pour prendre votre tunique, abandonnez-lui votre manteau, doit s'entendre, comme l'enseigne saint Augustin, de la disposition du cœur. En ce sens qu'il faut être prêt à souffrir, dans le cas où cela n'est convenable, une injure ou une injustice, plutôt que d'entrer en procès, mais il peut arriver que cela ne soit pas à propos. C'est là où le don de conseil, le don de sagesse vont demander, vont être utilisés pour justement aider les gens à comprendre toutes ces choses-là. Passons maintenant à la question 44 de la Seconda Seconde, des préceptes de la charité. Alors, cette question comporte 8 articles. Nous allons faire le tour rapidement. Il y a des choses importantes dans cette question. Fallait-il quelques préceptes touchant la charité, se demande saint Thomas d'Aquin au premier article. La fin de la vie spirituelle, dit-il, n'est autre que d'unir l'homme à Dieu par la charité. C'est le rôle de la charité. La charité, c'est quoi? La vertu de charité, c'est la vertu par laquelle j'aime le bon Dieu et j'aime le prochain comme moi-même pour l'amour de Dieu. Donc, c'est la vertu qui, par ce pont, en quelque sorte, qu'elle établit entre Dieu et l'homme, permet de le rapprocher de Dieu. Donc, la fin des commandements, c'est la charité qui naît d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le but des commandements, c'est quoi? Le but des commandements, c'est de m'aider à vivre en état de grâce. C'est pour ça que le bon Dieu nous a donné des commandements comme des, en quelque sorte, des barrières de protection sur notre voie que nous parcourons dans notre vie pour être sûr que nous ne tombions pas à droite ou à gauche dans le précipice. Le plus grand précepte, donc, est celui qui prescrit la charité. Alors attention, ne pas mélanger encore une fois les choses, il y a à se rappeler ce qu'est la vertu de charité. La charité, c'est l'amour du bon Dieu. La foi pour croire, l'espérance pour prier, la charité pour obéir à la loi. Donc la charité consiste à obéir à la loi de Dieu, aux 10 commandements. Donc si je n'obéis pas à la loi de Dieu, je ne peux pas avoir la charité surnaturelle, la charité théologale en moi. C'est absolument impossible. Donc tous les préceptes du décalogue, les 10 commandements, ont pour fin l'amour de Dieu et du prochain. C'est pour cela que ceux de la charité n'y figurent pas, parce qu'ils sont enfermés dans chacun d'eux. Donc, je pratique la charité en remplissant la loi du bon Dieu, en suivant les 10 commandements de Dieu. Si je refuse les commandements de Dieu ou un des commandements de Dieu, je ne pratique pas la charité. Et si je prétends avoir la charité surnaturelle en moi alors que je ne suis pas la loi des commandements du bon Dieu, eh bien, je n'ai pas la véritable charité en moi. Je donne un exemple tout simple. J'ai déjà donné cet exemple souvent, mais c'est malheureusement une chose très fréquente, une personne qui peut être extrêmement ferme en matière de catéchisme, extrêmement ferme en matière de doctrine de l'Église, mais qui vit tranquillement dans le péché à côté de ça parce qu'il vit avec la femme du voisin, eh bien, il est évident qu'en ce cas-là, il n'a pas en lui la charité et sa vie devient une hypocrisie complète. Article 2, fallait-il deux préceptes sur la charité? Bon, deux préceptes sur la charité, charité par rapport à Dieu, par rapport au prochain. Dans la pratique de la vie, dit saint Thomas, où les préceptes divins doivent nous diriger, la fin nous sert de principe. Cette fin, c'est l'amour de Dieu, auquel se rapporte l'amour du prochain. Donc il y a deux amours, deux préceptes de la charité, un qui regarde Dieu, un qui regarde le prochain. Quoique ces deux amours soient renfermés l'un dans l'autre, il n'a pas suffi d'établir le premier, il a fallu poser celui de l'amour du prochain dans l'intérêt des hommes moins intelligents qui n'auraient pas facilement vu que ce précepte est supposé dans l'autre. Il y a un lien entre les deux. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu si vous n'aimez pas le prochain, et vous ne pouvez pas dire que vous aimez le prochain si vous n'aimez pas Dieu. Et il faut les deux choses. Encore une fois, aimer le prochain, ça ne veut pas dire aimer le péché dans lequel le prochain vit. Aimer le prochain, ça veut dire aider le prochain à monter vers le bon Dieu, aider le prochain à retrouver l'état de grâce s'il a perdu, aider le prochain à rester en état de grâce, aider le prochain à aller au ciel. Donc si j'ai un enfant qui vit dans le péché jusqu'au cou, ce n'est pas l'aimer que d'accepter son péché. On aime Dieu dans le prochain, comme la fin dans le moyen, si vous voulez, qui conduit à la, dans le moyen qui conduit à la fin. Donc on aime Dieu dans le prochain, pardon, comme la fin dans le moyen qui conduit à la fin. Réciproquement, le moyen tire de sa liaison avec la fin son caractère de bonté. Les deux choses sont nécessaires. Alors saint Thomas se pose la question, l'article 3, suffit-il de ces deux préceptes touchant la parité, la charité, pardon, faut-il en rajouter d'autres? Et voilà ce qu'il dit. Oui, ces deux préceptes sont suffisants. Ces deux préceptes renferment toute la loi et les prophètes, dit notre Seigneur, c'est saint Matthieu, chapitre 22, verset 40. L'un nous porte à aimer Dieu comme notre fin dernière, l'autre le prochain pour Dieu, c'est-à-dire à cause de notre fin. On n'aime pas le prochain pour lui-même, on aime le prochain pour l'amener vers Dieu. Donc il n'est pas un acte de charité qui ne découle de l'un de ces deux amours, amour de Dieu, amour de prochain. Donc là, il y a une note intéressante du Père Le Breton. Pour stimuler les âmes paresseuses, des préceptes explicites sur la joie, la paix, la bienfaisance et contre les vices opposés à la charité sont néanmoins consignés dans l'Écriture. Nous y lisons, sur la joie, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Sur la paix, gardez la paix avec tout le monde. Sur la bienfaisance, pendant que nous avons le temps, faisons du bien à tous nos semblables. Contre les vices opposés à la charité, ne haïssez pas votre frère dans votre cœur, ne vous dégoûtez point des liens de la sagesse, ne soyons pas désireux de la vaine gloire et ne nous livrons pas à de mutuelles jalousies. Ayez tous le même langage et qu'il n'y ait point de schisme parmi vous, ne mettez point d'obstacles devant votre frère. Surtout des textes, soit de l'Ancien Testament, soit des épîtres de Saint Paul. Et donc tous ces textes ne font que expliciter ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que on se sauve par les deux actes de charité, charité à l'égard de Dieu pour placer Dieu au-dessus de tout et charité à l'égard du prochain pour aider le prochain à vivre dans l'amour de bon Dieu. Article 4, je passe rapidement parce que c'est facile, le précepte d'aimer Dieu de tout notre cœur est-il convenable ? Saint Thomas nous dit que Dieu doit être aimé comme la fin dernière à laquelle il faut tout rapporter. J'ai été créé pour louer, honorer, servir Dieu. J'ai été créé donc pour honorer le bon Dieu, pour le respecter et pour lui obéir. Pour cette raison, le précepte de l'amour de Dieu a dû désigner une totalité quelconque. De là, cette parole, vous aimerez Dieu de tout votre cœur. Et il ne faut pas garder dans notre cœur une partie qui n'est pas infusée par la grâce de la charité. Il faut donc que le cœur, si vous voulez, tout entier, n'accepte rien de contraire à l'amour divin. Donc si j'accepte de partager mon cœur entre d'une part l'amour de Dieu, l'amour du prochain pour l'amour de Dieu, et en même temps l'amour du monde, l'amour du démon, l'amour de la désobéissance au bon Dieu, à la loi du bon Dieu, eh bien à ce moment-là, je vis écartelé entre deux chaises. Vous voyez ? Encore une fois, ce n'est pas toujours par notre façon de parler qu'on est jugé. On est jugé par notre façon de vivre. Il faut que notre façon de vivre corresponde à la façon de parler. Est-il convenable d'ajouter aussi de toute votre âme et de toute votre force ? Saint Thomas explique donc le texte de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour est l'acte de la volonté désigné par le cœur. Donc la cervelle, le cerveau représente l'intelligence, le cœur représente la volonté. La volonté est le principe de tous nos actes spirituels en tant qu'elle se propose la fin dernière qui est l'objet de la charité. La fin dernière, c'est l'amour du bon Dieu, donc le salut de notre âme. Donc, il nous est ordonné, dit saint Thomas, de diriger vers Dieu toutes nos intentions, ce qui est l'aimer de tout notre cœur, ça c'est la volonté, de lui soumettre toute notre intelligence, ce qui est l'aimé de tout notre esprit, l'esprit là vaut pour le mot intelligence, et de régler selon ses vues tous nos appétits, ce qui est l'aimé de toute notre âme, et de faire toutes nos actions extérieures selon sa volonté, ce qui est de l'aimé de toute notre force, de toute notre vertu et de toutes nos forces. Donc c'est le résumé, ici il explique la phrase de notre Seigneur, aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre vertu. Donc, il faut aimer Dieu, dit saint Thomas, pas simplement avec notre intelligence, de façon purement intellectuelle, il faut aimer Dieu aussi avec notre cœur, avec notre façon de parler. Rappelez-vous la condition que Saint Pélisse a posée dans son catéchisme pour appartenir à l'Église catholique, avoir la foi et l'exercice de la foi. Pas simplement la foi, il faut la charité. La pratique de la foi. La pratique de la foi, c'est l'exercice de la charité. Article 6. Le précepte de l'amour de Dieu peut-il être accompli en cette vie? Donc, saint Thomas répond qu'il est possible de pratiquer ce précepte de l'amour de Dieu en cette vie, mais de façon incomplète, de façon imparfaite. Dieu se propose, dit-il, dans la précepte de la charité, de s'unir entièrement l'homme. Mais ce précepte ne sera parfaitement accompli que dans le ciel, où, selon l'expression de l'apôtre, saint Paul, Dieu sera tout en tous. Il est accompli sur la terre, mais d'une manière imparfaite. Donc il n'est pas possible, ici-bas sur la terre, que l'amour de Dieu soit accompli en ma vie de façon parfaite. Il y a toujours de la place pour mieux faire. Article 7. Je vais rapidement sur ces passages-là parce qu'il n'y a pas de problème particulier. Article 7, le précepte de l'amour du prochain est-il convenable? Le vrai motif, dit-il, que nous avons d'aimer les autres d'un amour de charité, c'est qu'ils nous sont proches sous le double rapport de l'image naturelle de Dieu et leur vocation à la gloire éternelle. Donc l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Rappelez-vous, j'ai déjà expliqué ces choses-là plusieurs fois. Il est créé à l'image de Dieu parce qu'il a une âme. Tout homme a une âme, même un païen a une âme, parce que ça fait partie de notre nature humaine. La nature humaine est faite d'un corps et d'une âme. Donc tout homme ayant une âme a les puissances de l'âme avec lui, avec son âme. Donc tout homme ayant une âme a une intelligence et une volonté. Donc le vrai motif que nous avons d'aimer les autres d'un amour de charité, c'est qu'ils sont nos proches, sous le double rapport de l'image naturelle et de leur vocation à la gloire éternelle. Donc l'homme est créé à l'image de Dieu, mais aussi à la ressemblance de Dieu. Tous les hommes sont créés à l'image de Dieu, parce que tous les hommes ont une âme. Mais pour certains, il y a une autre chose, une autre impression, si vous voulez, un autre sceau de l'amour du bon Dieu sur cette âme, qui est l'existence en cette âme de l'état de grâce. Le fait que tous les hommes aient une âme, c'est une preuve que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Le fait que un certain nombre d'hommes puissent aussi être en état de grâce, donc en plus de l'existence naturelle de l'âme dans notre nature, l'existence surnaturelle de la grâce sanctifiante en nous, ceci prouve qu'il peut y avoir des hommes qui sont créés aussi à la ressemblance de Dieu. Donc tous les hommes sont créés à l'image de Dieu, parce que tous les hommes ont une âme, et certains en plus sont créés à la ressemblance de Dieu, à savoir parce qu'ils ont en eux la marque, le sceau de la charité divine, et vivent dans l'état de grâce. Donc le but, si vous voulez, de la charité, c'est de permettre que notre prochain autour de nous, qui a déjà été créé à l'image de Dieu, puisqu'il a une âme, puisse maintenant être aussi trouvé à la ressemblance de Dieu, parce que cette âme doit aussi être en état de grâce. Si mon âme est en état, j'ai une âme parce que j'ai été créé à l'image de Dieu, très bien, mais ce n'est pas ça qui m'amène au ciel. Ce qui amène au ciel, c'est la ressemblance avec notre Seigneur. Cette ressemblance avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'est évidemment la vertu de charité, l'amour de Dieu. L'ordre de la charité tombe-t-il sous le précepte? Dernier article, article 8. Bon, la réponse est évidemment positive. L'ordre de la charité appartient à l'essence même de la vertu de charité. Il arrive, car il dérive par proportion de l'objet même de l'amour. Il s'ensuit qu'il tombe donc sous le précepte. Le mode spécial qui rentre dans l'essence même d'un acte vertueux tombe sous le précepte qui ordonne cet acte. Il est clair donc que nous devons aimer davantage ceux qui sont meilleurs et ceux qui sont, nous sont plus proches. Le bon Dieu, encore une fois, ne demande pas d'aimer tous les hommes de la même façon. Il n'y a pas d'égalité entre les hommes. Vous voyez comme cette idée d'égalité entre tous les hommes est totalement saugrenue. Toute chaque âme est différente et il nous faut aimer d'abord ceux qui nous sont plus proches. D'abord les membres de ma famille, par exemple. D'abord la famille naturelle, la famille religieuse pour le prêtre. Il nous faut commencer par aimer, la charité bien ordonnée commence par soi-même, donc commencer par aimer les citoyens de mon pays avant d'aimer les citoyens du pays voisin. Alors passons à la question 45, donc on arrive au bout de ce traité sur la charité. Question 45, du don de sagesse qui correspond à la charité, donc on voit bien comment saint Thomas d'Aquin travaille, je vous l'ai déjà expliqué souvent. Donc saint Thomas, après avoir expliqué donc le ce qu'est la vertu de charité, va étudier soigneusement les oppositions à la vertu de charité, les vices contraires à la charité, puis ensuite il va analyser également les préceptes de la charité et le don du Saint-Esprit qui correspond à la vertu de charité. Et c'est le don de sagesse. On dit que c'est le plus haut des dons du Saint-Esprit. Bon, c'est tout à fait relatif parce que tous les dons travaillent ensemble, si vous voulez, comme les doigts d'une même main. C'est ça qu'on dit. Il est dit dans l'Écriture sainte que la crainte de Dieu, qui est considérée comme le plus petit des dons du Saint-Esprit, est le début de la sagesse. Donc pour avoir le plus grand, il faut le plus petit. Donc en fait, tous les dons travaillent ensemble. Il n'est pas possible pour une âme catholique qui est en état de grâce d'avoir qu'un seul don du Saint-Esprit ou six dons du Saint-Esprit. S'il en manque un, c'est qu'il n'a pas les dons du Saint-Esprit. Ils travaillent tous ensemble. Ça ne veut pas dire que le bon Dieu va utiliser l'ensemble de ses dons au même moment, tout le temps pour nous, en fonction des besoins dans lesquels nous sommes, à cause de la situation de notre vie. Il va utiliser certains dons dans certains cas particuliers. C'est pour ça qu'on compare les dons du Saint-Esprit aux sept voiles de notre bateau. Vous connaissez cette expression qu'on utilise pour les enfants, qui est aussi valable pour les adultes. Et donc en fonction de la direction des vents, en fonction des écueils, en fonction des tempêtes, en fonction de la vitesse du navire, eh bien le pilote du navire va utiliser une partie des voiles ou toutes les voiles. S'il y a peu de vent, il va sortir toutes les voiles pour avoir plus de puissance pour pousser le bateau. Si au contraire il y a trop de vent, la tempête arrive, on va réduire les voiles. Donc en fonction des besoins, le bon Dieu va utiliser un certain nombre de dons du Saint-Esprit. Bon, on les a tous. Si on est en état de grâce, par exemple, si on est en proie de fortes tentations, ben, le bon Dieu va utiliser surtout le don, par exemple, de force. Bon, dans la prière, dans la désolation contre la prière, tentation d'arrêter de prier, dégoût de la prière, il va utiliser surtout le don de piété. Et là, pour nous aider à pratiquer la vertu de charité, eh bien, il va utiliser le don de sagesse. Je suis actuellement en train de faire un cycle de sermons sur les dons du Saint-Esprit pour la fête de la Pentecôte en utilisant les définitions du pape Saint-Pédis dans son catéchisme, son grand catéchisme. Voilà comment il définit donc les dons du Saint-Esprit. Il dit que les dons du Saint-Esprit servent à nous confirmer dans la foi, l'espérance et la charité et à nous rendre promptes aux actes de vertu nécessaires pour acquérir la vie chrétienne. Dire les dons du Saint-Esprit vont en quelque sorte ouvrir les portes de mon âme plus largement pour que le bon Dieu puisse travailler plus facilement dans mon âme et entrer plus facilement dans mon âme. Alors comment Saint Pédis définit-il le don de sagesse? Il dit le don de sagesse, la sagesse est un don par lequel, élevant notre esprit au-dessus des choses terrestres et fragiles, nous contemplons les choses éternelles, c'est-à-dire la vérité qui est Dieu, et en qui nous nous complaisons, qui nous aimons comme notre souverain bien. Donc la sagesse, si vous voulez, va en quelque sorte, pour résumer, nous aider à analyser les situations comme le bon Dieu lui-même les analyserait s'il était lui-même à la gouvernance de notre âme. Et donc voir les choses telles que le bon Dieu les voit, comprendre les choses telles que le bon Dieu les comprend, ce qui est très important. Parce qu'on a des croix, par exemple, des difficultés, des tentations, des désolations, on a tendance à se plaindre. Il faut essayer, au contraire, de mettre justement en notre âme ce don de sagesse pour nous faire comprendre pourquoi le bon Dieu permet-il qu'on ait ces différentes croix. Alors, nous allons voir un petit peu par cet article, parce qu'il y a cette question 45, donc ce don de sagesse qui correspond à la vertu de charité. Donc, comment Saint Thomas d'Aquin voit justement ce lien entre la sagesse et le don de... Et la vertu de charité. La sagesse est un don, tous les dons sont importants, mais la sagesse particulièrement, elle est pour nous aider encore une fois à voir les choses d'en haut, et puis voir les choses de notre pauvre petite bassesse. Parce que quand on voit les choses d'en bas, on voit très peu de choses. Donc il faut s'élever dans l'esprit et voir les choses d'en haut, un peu comme le bon Dieu les voit, au moins en partie, par le don de sagesse. Donc le don de sagesse va vous aider, en quelque sorte, ça c'est très important à comprendre, à utiliser notre intelligence pour les choses qui en valent la peine, c'est-à-dire utiliser notre intelligence pour les choses importantes, faire un tri, une hiérarchie des valeurs, si vous voulez, pour nous aider à comprendre un petit peu les différentes choses qui sont autour de nous, garder les bonnes, les importantes, et mettre de côté les choses secondaires. Je vous l'ai déjà dit, le monde moderne ne cherche qu'une seule chose, c'est à nous voir emmagasiner dans notre âme des tas de choses secondaires pour qu'il n'y ait plus de place pour les choses importantes. Donc le don de sagesse va nous aider en quelque sorte à analyser les choses sub specie eternitatem. Ça veut dire quoi? Eternitatis, ça veut dire sous l'apparence, avec la lumière de l'éternité. Quid ad eternitatem? C'est la question que se posaient toujours les saints. Je vais faire telle chose, je vais dire telle chose, je vais écrire telle chose. Quid ad eternitatem? Qu'est-ce que ça vaut pour mon éternité? Est-ce que ça va m'aider à sauver mon âme ou non? Enfin, le don de sagesse va nous aider aussi à avoir ce qu'on appelle l'éducation de l'admiration. L'éducation de l'admiration, c'est-à-dire à nous aider à aimer les choses belles, aimer les choses vraies. Si le monde moderne, je vous l'ai déjà expliqué souvent, mais je me permets d'y revenir parce que c'est sujet de cours, si le monde moderne nous pousse tellement, si vous voulez, vers les choses laides et les choses fausses, c'est que le monde moderne a perdu justement le don de sagesse, parce que le monde moderne vit dans le péché mortel jusqu'au cou. Donc quand on vit dans le péché mortel jusqu'au cou, évidemment, on n'a plus le don de sagesse, et donc on aime le lait. On aime les choses laides. Donc si vous voyez... C'est un petit peu tôt. Si on voit, si vous voulez, par exemple, dans un adolescent, on voit que cet adolescent commence à aimer, à être attaché constamment aux choses laides, en général, ça veut tout simplement dire qu'il est en état de péché mortel. Donc il n'a plus le don de sagesse. Parce que s'il n'y a plus de charité dans son âme, il n'y a plus de don de sagesse, il n'y a plus de don de Saint-Esprit, donc il n'y a pas le don de sagesse. Et donc, comme il a besoin du don de sagesse pour aimer les choses belles, s'il n'a pas le don de sagesse, il n'a plus le don de sagesse en lui, il est incapable d'aimer les choses belles, il va aimer les choses laides. Rentrez dans un magasin de jouets pour les enfants, vous allez vite comprendre ça. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il pousse tellement les enfants à être constamment entourés de choses laides? Regardez la laideur de tous ces, par exemple, de tous ces jouets pour Noël, ces monstres et toutes ces choses de ce genre. Ces espèces de films d'horreur qu'il y a partout maintenant, adaptés même aux enfants, hélas. Eh bien, pourquoi? Parce que justement, ça va avec le démon qui est le prince de la laideur. Donc, si au contraire, j'entoure mes enfants de beauté, que ce soit beauté morale, mais aussi beauté matérielle, je dirais d'art, qui soit vraiment de l'art, des beaux tableaux, des belles peintures, de la belle musique. Eh bien, j'aide mes enfants, évidemment, à rester en état de grâce. Donc, le don de sagesse va nous aider à juger sainement des choses de Dieu. Donc, je répète la définition du pape Saint Pie X, pour contempler les choses éternelles, pour élever notre esprit au-dessus des choses terrestres et fragiles, et contempler les choses éternelles, la vérité qui est en Dieu, et en qui nous complaisons, que nous aimons comme notre souverain bien. Donc, le don de sagesse m'a aidé à comprendre que le plus important dans ma vie, c'est de rester en état de grâce. J'ai été créé pour Dieu. Premier article de la question 45. Doit-on compter la sagesse parmi les dons du Saint-Esprit? La réponse est évidente. Donc, cette liste des dons du Saint-Esprit dans le livre d'Isaïe, au chapitre 11, verset 2, et dans cette liste, il y a l'esprit de sagesse. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, qui est l'esprit de sagesse. Donc, Saint Thomas avait expliqué que le mot sage, dans un genre quelconque, les hommes, on appelle des sages, les hommes qui s'élèvent à la cause la plus élevée de ce genre. Donc, celui qui juge... On donne absolument ce nom à celui, dit-il, qui, remontant à Dieu même, la plus haute de toutes les causes, juge avec certitude toutes les autres causes et ordonne toutes choses d'après les règles divines. C'est-à-dire celui qui, justement, remonte à la source. Hein, à la source. En philosophie, par exemple, la plus haute matière philosophique, c'est la métaphysique, justement, à cause de cela. Voilà pourquoi, dit-il, la sagesse est un don du Saint-Esprit. C'est de l'Esprit Saint que l'homme reçoit un tel jugement. Selon ces paroles de Saint Paul, l'homme spirituel juge tout parce que l'Esprit pénètre tout, même les secrets de Dieu. Donc là, pour résumer, la sagesse est un don du Saint-Esprit, mais elle n'est pas la vertu intellectuelle qu'on en acquiert par l'étude. Attention, c'est deux choses complètement différentes, parce que la sagesse est un don du Saint-Esprit, c'est au niveau surnaturel. L'étude est au niveau naturel. La sagesse diffère aussi de la foi qu'elle présuppose. On ne peut pas avoir La sagesse sans la charité, mais on ne peut pas avoir la charité sans la foi. Donc si on a la sagesse, on a immédiatement la foi. La sagesse a aussi pour principale manifestation la piété et la crainte de Dieu, par lesquelles un homme prouve qu'il juge sainement des choses divines. Donc la piété et la crainte de Dieu prouvent, le fait qu'il y ait en mon âme la piété et la crainte de Dieu prouve que j'ai en mon âme la sagesse. De toute façon, si je peux prouver, je vous ai expliqué, si je peux prouver que j'ai dans mon âme un don du Saint-Esprit, je les ai tous. Et si je ne les ressens pas tous au même moment, c'est que peut-être que je n'ai pas besoin actuellement, dans la situation qui est la mienne propre, je n'ai pas actuellement besoin de tous les dons du Saint-Esprit. Donc le bon Dieu me fait ressentir certains dons du Saint-Esprit qui sont nécessaires pour moi dans la situation présente. La sagesse, demande Saint Thomas, article 2, est-elle dans l'intelligence comme dans son sujet? Voilà donc ce que répond Saint Thomas à cette question, savoir si l'intelligence et la sagesse est dans l'intelligence comme dans son sujet. Il dit la sagesse comme don a sa cause dans la volonté, à savoir la charité, mais elle a son essence dans l'intelligence dont l'acte propre est de bien juger. Donc, si vous voulez, la sagesse essentiellement existe dans l'intelligence parce que l'intelligence a pour objet propre le vrai. Donc la sagesse va nous aider à considérer et à contempler le vrai. Mais en tant que don de Saint-Esprit, la sagesse va également travailler avec notre volonté, dont l'objet propre n'est pas le vrai en tant que tel. L'objet propre de notre volonté, c'est le bien. Donc, si vous voulez, la sagesse va travailler aux deux niveaux, ce que dit Saint Thomas, au niveau intellectuel et au niveau de la volonté, au niveau intellectuel, pour nous aider à bien associer la sagesse avec la contemplation de la vérité, et au niveau de la volonté, cette fois-ci, pour nous aider dans la pratique à choisir le chemin le plus court qui mène à ce vrai. Ce n'est pas suffisant de savoir où est le vrai, il faut pouvoir le posséder. On sait où est le vrai par l'intelligence, on possède le vrai par la volonté. Le don d'intelligence, donc en résumant, se rapporte à la perception et le don de sagesse au jugement. Donc on verra petit à petit tous les dons du Saint-Esprit. Donc, pour ceux qui sont intéressés un peu plus par ces sujets-là, les dons du Saint-Esprit, donc je vous conseille d'écouter tous les sermons que je mets au fur et à mesure sur Internet. Encore une fois, n'oublions pas que tous les dons du Saint-Esprit travaillent ensemble. Donc le don d'intelligence est étroitement uni au don de sagesse, et le don de sagesse est étroitement uni au don d'intelligence. Alors, il va conclure, si vous voulez, avec l'article 3, conclure ce point-là, avec l'article 3, la sagesse est-elle purement spéculative ou bien est-elle aussi pratique? Et donc il va répondre que la sagesse n'est pas simplement spéculative, donc au niveau intellectuel, mais aussi pratique au niveau de la volonté. Et il va citer saint Augustin, qui a remarqué que le don de sagesse est dans la partie supérieure de la raison, et le don de science dans la partie inférieure. Donc la sagesse en tant que don n'est pas seulement spéculative, elle est aussi pratique. Donc elle va nous aider dans la vie de tous les jours, simplement, pas simplement pour diriger notre intelligence vers le bon Dieu, mais également pour diriger notre volonté, pour que nous évitions les obstacles qui nous empêchent de nous rapprocher de Dieu. Donc la sagesse comme don est supérieure à la sagesse comme vertu intellectuelle. Donc elle met notre âme dans un rapport plus intime avec Dieu. Voilà pourquoi elle doit diriger l'homme non seulement dans la contemplation, mais dans l'action. Les choses éternelles et nécessaires sont la règle des actes humains. On avance dans cette question donc sur le don de sagesse. La sagesse peut-elle exister sans la grâce et avec le péché mortel? On a déjà répondu évidemment à cette question plusieurs fois. La réponse est négative. La sagesse ne peut pas exister. Non, je répète la question. La sagesse peut-elle exister sans la grâce et avec le péché mortel? Bien sûr que non. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que la sagesse est un don du Saint-Esprit qui est une conséquence de l'existence dans mon âme de la vertu de charité. Or, si je n'ai pas l'état de grâce dans mon âme, je n'ai pas la grâce, J'ai péché mortel dans mon âme, malheureusement, donc je n'ai pas la grâce, je n'ai pas la grâce, je n'ai pas la couronne de la grâce, je n'ai pas la vertu de charité, n'ayant pas la charité, j'ai aucun des dons du Saint-Esprit, donc je n'ai pas la sagesse. Cela, lorsqu'on voit qu'une personne vit en général dans la laideur, aime les choses laides, a cette assédie spirituelle qui le dégoûte des choses spirituelles, 9 fois sur 10, ça veut tout simplement dire que cette personne vit dans le péché mortel. Il faut obtenir que cette personne se confesse. Quand je vois, par exemple, parfois j'ai des contacts avec des jeunes qui sont vraiment embrigadés avec la musique moderne, la musique rap, la musique rock, qui viennent voir le prêtre, mais on sent très bien que dans leur habillement, dans leur façon de se comporter, ils ont des anneaux dans les oreilles ou dans le nez, ou ils ont des coups partout parfois. Ils ne sont pas forcément des mauvaises personnes d'ailleurs, mais ils sont perdus, vous voyez. Et la première question que je vais leur poser, c'est est-ce que vous confessez? De quand date votre dernière confession? Et 9 fois sur 10, ils me répondent, mon père, je ne me confesse plus depuis très longtemps. Et donc il faut les aider à se préparer une bonne confession, à par une bonne confession, arriver à retrouver la grâce du bon Dieu. Donc voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin, il cite le livre de la sagesse, justement. La sagesse n'entrera pas dans une âme méchante et n'habitera pas dans un corps soumis au péché. Une très belle phrase. La sagesse n'entrera pas dans une âme méchante et n'habitera pas dans un corps soumis au péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai le malheur d'être en état de péché mortel, mon âme est ennemie de Dieu, comme le monde. Le monde est ennemi de Dieu. Nous l'avons dit dans la profession de foi que nous faisons pour la vigile pascale. Suivant donc ce qui précède, la sagesse, don du Saint-Esprit, fait porter un jugement saint sur les choses divines en vertu d'une certaine conformité de nature avec elles. Conformité qui provient de la charité. Ça veut dire que, avec la charité en moi, donc le don de sagesse, j'arrive, si vous voulez, ce que j'expliquais au début, à me mettre un pas au niveau de Dieu, c'est pas ce que je veux dire, mais à penser un peu comme Dieu, juger comme Dieu juge. Quand je suis devant une situation un peu compliquée, il faut se poser la question, comment est-ce que le bon Dieu jugerait s'il était là? Comment un saint jugerait s'il était là? Comment saint Thomas d'Aquin jugerait la situation s'il était à ma place? La sagesse dont nous parlons présuppose donc par conséquent la charité qui n'est pas compatible avec le péché mortel. Dès lors, elle ne peut pas exister dans une âme avec le péché mortel. Et donc saint Thomas d'Aquin est parfaitement logique. Ça, c'est des points très importants. On ne peut pas aller au ciel sans grâce sanctifiante. Et donc, on ne peut pas aller au ciel sans les dons du Saint-Esprit. Si je n'ai pas les dons du Saint-Esprit, j'aurai énormément de difficultés à rester tout simplement dans le chemin qui mène à Dieu. Et donc la première chose qu'il faut faire avec une personne qui a bien des difficultés avec sa vie de tous les jours, qui a ce dégoût des choses spirituelles, cette assédie spirituelle terrible en lui, il faut le pousser à retrouver l'état de grâce. Et la meilleure façon de pousser quelqu'un à retrouver l'état de grâce, c'est précisément de le faire confesser. Si on le confesse, eh bien, à ce moment-là, il peut retrouver l'état de grâce. Et retrouvant l'état de grâce, il va comprendre les choses beaucoup plus facilement comme le bon Dieu les comprend et pas comme lui veut les comprendre. Donc, le père Le Breton donne une petite note sur ce sujet qui est bien. La connaissance des choses divines acquises par l'étude et par les lumières de la raison peut coexister avec le péché mortel, mais il n'en est pas ainsi de la sagesse considérée comme don de l'Esprit Saint. Donc, toute étude que je fais, si je ne suis pas en état de grâce, il manquera toujours quelque chose. C'est pour ça qu'il est important d'étudier. Mais il ne suffit pas d'étudier en état de péché mortel, c'est pas suffisant, il manque quelque chose. Donc il faut étudier Dieu en état de péché mortel, c'est un peu une hypocrisie, parce que l'étude est supposée me rapprocher de Dieu, mais le péché mortel m'éloigne de Dieu. Donc j'étudie pour me rapprocher de Dieu, mais dans ma vie de tous les jours, je vais en état de péché mortel, donc je m'éloigne de Dieu en courant. Ça va plus. Donc, une des premières choses qu'il faut faire pour pouvoir étudier avec sagesse, justement, c'est d'être en état de grâce avant l'étude. Donc je conseille beaucoup aux personnes qui veulent étudier ces choses divines, mais qui ont du mal, parce qu'elles sentent qu'elles n'y arrivent pas, souvent, encore une fois, revenir à la case confession, qui peut bien aider dans bien des cas. La sagesse, article 5, est-elle dans tous ceux qui sont en état de grâce? Bon, c'est évidemment une conséquence de l'article 4. Si la sagesse ne peut exister sans la grâce avec le péché mortel, ça veut dire que la sagesse existe dans tous ceux qui sont en état de grâce, évidemment. Et donc, si le livre de la sagesse disait « La sagesse n'entrera pas dans une âme méchante, elle n'habitera pas dans un corps soumis au péché », et elle dit aussi « Dieu n'aime que celui qui habite avec la sagesse ». Donc Dieu est l'ami de tous ceux qui sont en état de grâce, ceux-ci ont donc la sagesse. Donc l'état de grâce, c'est la charité, l'état de grâce, ce sont les dons du Saint-Esprit, ce qu'on appelle la couronne de la charité, tout ce qui tourne autour, les béatitudes, les dons et les fruits du Saint-Esprit. Donc, quelques-uns vont recevoir cette sagesse pour la contemplation, soit pour la bonne direction de leurs affaires, soit dans le degré simplement nécessaire au salut. Ainsi comprise, la sagesse ne fait défaut à aucun de ceux qui ont la charité. Si j'ai la charité, j'ai le don de sagesse avec moi. Je m'excuse pour le bruit, j'ai un chat dans la maison, mais qui aime beaucoup Saint Thomas d'Aquin, mais qui est très bruyant. Et si je le mets dehors, il est encore pire. Alors, on revoit aussi dans l'article 5 une autre note de Saint Thomas qui est importante. Donc, la sagesse, dit-il, ne fait défaut à aucun de ceux qui ont la charité. Les autres la reçoivent à un degré plus élevé, soit pour contempler les mystères divins, les expliquer aux autres, soit pour se diriger eux-mêmes ou pour diriger les autres conformément aux lois divines. Donc, la sagesse, ce n'est pas simplement pour nous, c'est aussi pour les autres. Parce que par mon exemple, je dois amener les autres à monter vers le bon Dieu. De la même façon que par mon mauvais exemple, je pousse les gens à s'éloigner de Dieu par le péché de scandale, au contraire, par le bon exemple que je donne, j'aide les autres à monter vers le bon Dieu. Ce degré supérieur de sagesse n'est pas le partage de tous ceux qui ont la grâce sanctifiante. Il appartient principalement aux grâces gratuitement données que l'Esprit Saint distribue comme il lui plaît. Donc le bon Dieu va donner parfois des dons particuliers, comme le don du miracle, par exemple le don des langues, pour aider les gens à vivre, à ramener les autres, ceux dont ils ont la charge, vers le bon Dieu. On voit bien avec tous ces textes magnifiques de Saint Thomas comment Dieu nous donne à chacun d'entre nous toutes les grâces dont nous avons besoin pour bien vivre en état de grâce. Ensuite, comme il le fait à chaque fois, Saint Thomas donc va terminer cet article, et pratiquement terminer le traité sur la charité, avec une question concernant les béatitudes. Donc, quelle est la béatitude qui correspond au don de sagesse et qui correspond à la vertu de charité. Et donc, il va se poser la question, la septième béatitude répond-elle au don de sagesse? La septième béatitude, c'est celle qui dit « Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés les enfants de Dieu. » Et il dit que cette septième béatitude, donc « Bienheureux les pacifiques », répond parfaitement au don de sagesse. Car les pacifiques sont ainsi appelés parce qu'ils établissent la paix en eux-mêmes et dans les autres. Pas simplement en eux-mêmes. Quand on est en paix avec Dieu, on va être un instrument de paix pour les autres. Quand au contraire, on est en paix avec des démons, on va être un instrument de damnation pour les autres. Comme il appartient à la sagesse d'établir l'ordre, c'est avec raison qu'on lui attribue le pouvoir de pacifier. L'absence de sagesse va au contraire entraîner le désordre, l'impossibilité de pacifier. Donc pour pacifier une société, qu'est-ce qu'il faut? Remettre un peu la paix dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faut? L'état de grâce. Remettre les gens en état de grâce, c'est ça qu'il faut. Seulement, évidemment, c'est de plus en plus difficile parce que 99% des Français ont perdu la foi. La récompense donc qui vient après cette béatitude, donc la bienheureuse des pacifiques, est la suivante, ils seront appelés les enfants de Dieu. Et cela lui convient parfaitement, dit saint Thomas, parce qu'on en appelle enfants de Dieu ceux qui participent à la ressemblance du Fils unique de Dieu qui la sagesse engendrée. En participant au don de sagesse, l'homme s'élève jusqu'à la filiation divine. C'est magnifique comme phrase. En participant au don de sagesse, l'homme s'élève jusqu'à la filiation divine. Donc l'homme devient, par la grâce sanctifiante et donc par les dons du Saint-Esprit, mais surtout par le don de sagesse, il devient enfant de Dieu par adoption. On n'est pas enfant de Dieu par nature, bien sûr. Le Fils de Dieu par nature, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même. Mais on peut s'élever jusqu'à une filiation divine, justement, par le baptême. Le baptême fait de nous des enfants de Dieu, attention, sens propre. Mais l'existence en nous du Saint-Esprit va augmenter cette incorporation, si vous voulez, à la divinité. Donc un enfant de Dieu par le baptême va rester enfant de Dieu tout le temps, même s'il commet le péché mortel. Un catholique qui vient d'être péché mortel, attention, toujours enfant de Dieu, mais c'est un mauvais enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu qui est insupportable. Donc il faut retrouver la sagesse par le don, par la vertu de la grâce sanctifiante, par l'état de grâce, pour retrouver cette filiation divine. Donc par le don de sagesse, je m'élève jusqu'à la filiation divine, c'est-à-dire on se rapproche de Dieu. C'est pour ça qu'on dit, je disais au début que la sagesse donc, va m'aider à penser comme le bon Dieu pense, à juger les choses comme le bon Dieu les juge, et à voir les choses autour de moi comme le bon Dieu les voit. Nous allons terminer avec un petit article, la petite question, plutôt la dernière question du traité sur la charité. Donc nous arrivons au bout de ce traité sur la charité, qui est un traité qui est quand même assez long. Puisque je vous rappelle que le traité sur la charité couvre toutes les questions, la question 23, la question 46. Donc nous avons terminé par la question 46, c'est-à-dire de ce qui est opposé à la sagesse. Qu'est-ce qui s'oppose à la sagesse? Il va répondre la folie. La folie est-elle opposée à la sagesse? La sagesse, donc un homme sage, c'est un homme qui est équilibré devant Dieu. Un homme fou, c'est un homme qui est déséquilibré devant Dieu. La sagesse est l'état d'un homme qui possède un jugement subtil et pénétrant. Elle a pour contraire la folie qui dénote un cœur émoussé et un sens hébété. Là, on retrouve les signes, si vous voulez, par lesquels on peut reconnaître le travail du démon dans une âme, à savoir l'obscurité, la confusion, l'amour, l'attraction vers les choses laides. La pagaille, en général, tout simplement. Et l'absence de sagesse dans un cœur, va rendre ce cœur émoussé et hébété. Ça veut dire incapable de chercher le vrai. Parce que justement, il lui manque la sagesse. Ensuite, saint Thomas va se poser la question de savoir si la folie est un péché. Alors, évidemment, il ne parle pas ici de la folie qui est comme la suite d'une maladie naturelle, comme chez les aliénés, par exemple. Elle n'est point un péché, c'est évident. Mais celle dont il parle, la folie dont il parle, c'est celle qui provient des jouissances matérielles où l'on ensevelit ses sens. Et dont parle l'apôtre quand il dit « L'âme animale ne perçoit pas ce qui est de Dieu et en est certainement un ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je me vautre dans les jouissances matérielles, j'ensevelis mes sens dans les choses matérielles à un tel degré que je ne suis plus capable d'élever mon âme vers le bon Dieu. Don de sagesse, évidemment, s'enfuit immédiatement à toute vitesse. La don de sagesse ne va pas rester dans une âme qui est ensevelie dans les jouissances matérielles. On ne peut pas plaire à Dieu et au monde en même temps, ce n'est pas possible. On se rend par une telle conduite incapable, dit saint Thomas, de percevoir les choses divines, et l'on devient semblable à un homme dont le goût, altéré par une humeur mauvaise, ne trouve plus de saveur aux mets les plus doux. Pour cela que celui qui n'a plus la sagesse va avoir immédiatement cette acédie spirituelle. Et l'acédie spirituelle, dont j'ai déjà longuement parlé, l'acédie spirituelle, ce dégoût spirituel, cette tristesse spirituelle, est un signe de l'absence de sagesse et donc de l'état de péché mortel. Vérifiez bien ça chez vos enfants et sur vous-même aussi. Est-ce qu'on a cette joie de vivre, ou est-ce qu'au contraire, cette tristesse, ce dégoût de la prière qui souvent est un signe alarmant qui m'indique que ben, finalement, j'ai bien besoin de me confesser pour retrouver l'amitié du bon Dieu. Donc, ces jouissances matérielles qui ensevelissent les sens, évidemment, empêchent le développement normal de la sagesse. La sagesse ne peut pas se développer dans une âme qui est amoureuse des choses du monde. Celui qui veut venir après la suite de notre Seigneur, qui se renonce à lui-même, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il renonce au monde, qu'il prenne sa croix, qu'il me suit. Il faut renoncer au monde pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est absolument évident. Alors, il a une question très importante, la dernière, c'est la fin de ce traité sur la vertu de charité. La folie, donc, dont il parle, vient-elle de la luxure? Le luxurieux lui-même veut-il directement le péché? Se pose la question saint Thomas. Saint Thomas se pose la question. Non, bien sûr que non, mais il veut le plaisir dont le péché est nécessairement inséparable. Il est néanmoins coupable du péché de luxure. Donc cette folie qui est provoquée par l'abondance des jouissances matérielles, qui ensevelissent l'essence, va immédiatement travailler, nous entraîner vers la luxure. Et cette luxure va provoquer la folie qui est opposée au précepte qui nous prescrivent de contempler la vérité. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans la luxure, parce qu'il a comme conséquence du fait qu'il se vautre dans les jouissances matérielles et ensevelit ses sens dans les puissances, dans les jouissances matérielles, une telle personne, à cause de ça, va tomber dans la luxure et deviendra incapable de contempler la vérité. Vous voyez? Donc l'absence de sagesse nous empêche de contempler la vérité. Au contraire, la présence de la sagesse dans une âme, par la vertu de charité, nous permet de contempler la vérité. Et là, il y a des phrases très fortes de saint Thomas. Rien ne conduit plus promptement à l'extinction du sens spirituel, c'est-à-dire à la folie, que la luxure, qui, livrant l'âme à des plaisirs très sensibles, l'absorbe complètement dans la matière. En quelque sorte, la luxure rabaisse l'âme au niveau des animaux, au niveau des brutes, comme dit l'Écriture. Les brutes, c'est les animaux sans raison. La folie en vient tout particulièrement, ainsi le dégoût de Dieu et de ses dons, la haine même de Dieu et le désespoir à l'égard des biens futurs lui appartiennent en propre. Vous voyez, donc c'est la conclusion de saint Thomas du traité sur la charité pour bien expliquer l'importance de la charité. On comprend mieux l'importance de la charité en voyant les catastrophes dans une âme qui n'a pas justement la charité. Une âme qui n'a plus la charité n'a plus les dons de Saint-Esprit, n'a plus le don de sagesse et donc sera incapable de contempler la vérité. Et on peut le voir par toute une série de signes, ici bien décrits par saint Thomas d'Aquin, le dégoût de Dieu et de ses dons, la haine même de Dieu, le désespoir à l'égard des biens futurs. Donc, je répète cette phrase qui clôt le traité de saint Thomas sur la charité. Rien ne conduit plus promptement à l'extinction du sens spirituel, c'est-à-dire à la folie, que la luxure qui livre l'âme à des plaisirs très sensibles. Luxure, qu'on prend tous les péchés contre la pureté. Voilà, nous avons terminé avec ce magnifique traité sur la vertu de charité. Donc, nous allons maintenant continuer donc dans la seconda seconde. On n'est pas du tout à la fin de la seconda seconde. Maintenant, nous allons attaquer les vertus cardinales. Hein, les vertus cardinales. Qui sont des vertus, cardo en latin, c'est si vous voulez, le gond de la porte qui permet à la porte de s'ouvrir. Donc, les quatre vertus cardinales donc, suivent les trois vertus théologales, donc foi pour croire, espérance pour prier, charité pour obéir à la loi du bon Dieu, l'aimer. Prouver son amour pour lui en obéissant à ses commandements. Et maintenant, donc, les quatre vertus cardinales, la prudence, la justice, la force et la tempérance. On va commencer par la prudence, donc, qui couvre les questions 47 à 56. Le traité sur la vertu justice est un des plus importants, un des plus longs de la somme. Pas des plus importants, mais des plus longs de la somme. C'est un traité extrêmement technique. Enfin, il y a des parties qui, à mon avis, sont très importantes pour nous, des parties très techniques. Canonique, je dirais. Alors, je passerai assez rapidement sur la partie technique parce que c'est pas tellement le but du cours. C'est un cours qui est un peu un cours de vulgarisation sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Je m'adresse plutôt à des laïcs ou des séminaristes qui veulent écouter, mais surtout à des laïcs qui sont dans le monde. Donc, je vais insister surtout sur les parties qui peuvent aider notre âme à se rapprocher du bon Dieu. Alors, cette vertu de prudence, on expliquera ça la prochaine fois. La vertu de prudence, c'est une vertu extrêmement importante parce que c'est la vertu du chef. Donc, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, j'ai remarqué que quand je pose cette question, quelle est la vertu du chef? On me répond toujours la force. Ben non. D'après saint Thomas d'Aquin, la vertu du chef, c'est la vertu de prudence. Donc la prudence, la force, la tempérance et la justice. Bon, pourquoi ces quatre vertus cardinales? J'ai déjà expliqué, mais je pense que c'est important avant de s'en lancer dans l'étude des vertus cardinales, de bien comprendre que chacune de ces vertus cardinales nous est donnée pour lutter contre les conséquences évidemment du péché originel. Les blessures du péché originel sont extrêmement lourde en nous, même après le baptême. Notre intelligence, notre volonté, l'irascible et le concupiscible sont attaqués, sont blessés par le péché originel, même après le baptême, attention. Et donc, ces vertus cardinales, donc vous nous aidez à gérer ces blessures, en quelque sorte. Donc, contre la blessure d'ignorance, il y a évidemment la vertu de prudence. Contre la faiblesse de la volonté, il y aura la vertu de force. Donc nous verrons tout cela la prochaine fois. Donc on expliquera à fond. Je reviendrai sur des choses que j'ai déjà expliquées. Je m'excuse de passer beaucoup de temps à répéter les choses, mais c'est tellement important pour comprendre les choses. Vraiment, on ne peut pas enseigner sans répéter. Donc on réexpliquera donc ces... C'est l'importance de ces blessures et des vertus cardinales, donc pour lutter par la prudence, la justice, la force et la tempérance, pour lutter contre les conséquences des péchés originels, que ce soit l'ignorance, la faiblesse, la malice et la concupiscence. Donc l'ignorance, si vous voulez, va être jugulée par la vertu de prudence. La malice sera jugulée par la vertu de justice, la faiblesse va être jugulée par la vertu de force et la concupiscence par la vertu de tempérance. Donc on verra tout ça, si Dieu veut, à partir du prochain cours. Nous allons terminer par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pélisse, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous.